There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux. Parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Dans ce 6e épisode, je reçois deux membres du groupe Catastrophe. Contrairement à l'épisode précédent, les deux intervenants, ici Blandine et Pierre, s'exprimeront ensemble sur une daube commune. Catastrophe a sorti en 2020 son deuxième album Gong, un album pop qui incite à se défouler, à danser, et le tout en abordant les sujets inépuisables de vie, de mort, etc. comme on les connaît, à travers de très beaux textes. Peut-être avez-vous eu vent de Catastrophe auparavant, puisque le groupe a sorti en 2020 son deuxième album Gong, faisant suite au premier, intitulé « La nuit est encore jeune », paru en 2018. Est extrait de ce deuxième disque ce superbe morceau, « Maintenant ou jamais ».
Les yeux dans cette boîte de nuit, et sous la lumière, je me suis remise à danser. Et j'ai dansé, encore, en souriant.
Ainsi que le morceau Gros Mythe, titre inspiré du nom du très bon chien-chien de Wallace. Avant de diffuser l'extrait, je profite de l'évocation de cet iconique duo de pâte à modeler, non seulement pour, bien évidemment, vous conseiller de regarder Wallace et Gros Mythe si ce n'est déjà chose faite, mais aussi pour vous prévenir que s'il semblerait que Blandine, Pierre et moi nous adonnons à la pratique de la lutte pendant que nous discutons, c'est parce que Jean Poire, en fait, très bon chien également, mais fait de chair et d'os, aura profité de mon entretien avec ses maîtres pour jouer près de nous. Cela n'atténue pas la prise de voix des intervenants, mais au moins vous savez que les bruits de combat proviennent de celui que mène Jean Poire avec ce qu'il trouve par terre. Place désormais à Gros Mythe et très bon épisode à toutes et tous.
Agenda, on me dit mais t'es sous mandat. Dernière fois que j'ai vu la mer, publicité RER. Pas le temps d'écrire tes paroles. Je passe en mode avion, je m'envole. Tout filé, passe besoin d'espace. Heureux comme Gros Mythe et voilà.
Bah salut Catastrophe.
Salut.
Salut.
Comment ça va?
Ça va.
Ça va, on fait aller. Comme disait ma grand-mère.
Et moi, je vous propose de dégayer tout ça en parlant de votre daube. Qu'est-ce que c'est, votre daube?
Notre daube, qui n'en est pas une, c'est le temps des cathédrales dans Notre-Dame de Paris par Bruno Pelletier.
Il est venu le temps des cathédrales, le monde est en...
Ouais, je disais à Catastrophe combien ça me faisait plaisir qu'ils aient choisi cette chanson, parce que c'est un plaisir, entre guillemets, toujours un plaisir coupable partagé. Et j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont pouvoir me dire dessus, et du coup, j'aimerais bien savoir ce qui vous touche autant dans cette chanson.
Alors, beaucoup de choses. Déjà, en premier lieu, je pense que c'est une chanson qui nous fait plaisir et qui nous fait, d'une certaine manière, jouir auditivement. Pour une constellation de raisons très différentes. La première, je dirais, c'est la modulation qu'on entend, les modulations successives qu'on
Trois
entend dans le morceau.
Modulations, il me semble. C'est-à-dire modulation
alors,
de tête.
Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une modulation, une modulation c'est quand en musique on change de tonalité. C'est-à-dire qu'on change de centre de gravité. Je pense que même si vous connaissez pas forcément le solfège ou la musique, vous sentez quand vous écoutez cette chanson qu'à un moment il reprend mais sur un autre ton, il fait il est venu
déjà. Ouais, ouais.
En fait, c'est un procédé qu'on aime beaucoup, qui n'est pas beaucoup utilisé dans la pop.
Non, qui est un peu mal vu, hein, qui est vu comme un procédé un peu de mauvais goût.
Un peu facile. Mmh. Voilà, un peu facile. Et c'est un procédé qu'on trouve dans cette chanson, qui est Love on the Top, qui, elle, pousse jusqu'à 4 modulations. C'est-à-dire qu'elle le fait, je sais pas si tu vois.
Bien sûr.
Écoute, My Love on Top. Et en fait, c'est un morceau où il y a quasiment pas de couplet, c'est juste une phrase musicale qui monte et qui monte et qui monte et qui monte et qui monte.
C'est très vrai.
Il y a une sorte de jouissance de, on y retourne. Et en même temps, c'est pas exactement la même chose parce que on s'enfonce en fait dans ce thème musical. Donc ça c'est une première chose que je pourrais dire. Mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres raisons qui font qu'on aime ce morceau.
Alors moi je vais donner une raison plus intime. C'est un morceau que j'ai entendu sur scène quand j'étais petite et que je faisais des comédies musicales. Donc je l'ai entendu dans j'ai pas vu le vrai. J'ai vu Roméo et Juliette en vrai. C'était ma première fois. Alors petite anecdote. Ouais. C'est moi je viens de l'ouest de la France, une petite ville qui s'appelle Rezé, qui est pas loin de Nantes. Et avant d'arriver à Paris à 18 ans, j'étais venue une seule fois à Paris à 11 ans, je dirais, j'ai accompagné Madame Quatrevaux, qui est décédée depuis. Et Madame Quatrevaux, pour ses 80 ans, avait gagné 2 places pour aller voir Roméo et Juliette. Et donc, elle cherchait quelqu'un pour l'accompagner. Donc, j'étais dans un car. Oula. J'étais dans un car de retraités qui allait voir Roméo et Juliette à Paris. Et j'ai vu Roméo et Juliette, voilà, pour la première fois. Mais j'ai pas pu bien apprécier Roméo et Juliette parce que malheureusement, je n'avais pas mis le portable de ma mère en silencieux. Et j'avais peur que ça se mette à sonner d'un instant à l'autre.
T'as vécu dans la peur.
J'ai vécu complètement dans la peur. Bref, donc sur le côté. Mais par ailleurs, moi, de mes 11 à mes 18 ans, j'ai pratiqué la comédie musicale dans un festival de Vendée. Voilà, un festival de comédie musicale où il y a des professionnels et des amateurs qui se retrouvent en Vendée et qui pratiquent la comédie musicale. Et c'est des représentations tous les soirs, c'est hyper intensif. C'est vraiment genre de 10 heures à 23 heures les répétitions. Enfin voilà, c'est hyper intensif et très joyeux. Et donc il y avait cette chanson qui a été chantée sur scène et je devais avoir à peu près le même âge, je sais pas, de 12 ans. J'étais vraiment bébé adolescente et j'avais une admiration éperdue pour l'interprète de cette chanson,
pour Bruno,
et justement pour ses modulations. Enfin c'était un truc que je n'arrivais pas à atteindre, j'arrivais pas à partir assez bas et arriver assez haut, donc
c'est
je me disais mais
ce qui est impressionnant aussi c'est le spectre de la tessiture en fait de cet homme qui chante. C'est ça qui en fait un peu une démonstration de force. Et c'est aussi un des autres aspects qui nous a plu dans cette chanson, c'est que c'est technique. Et que n'importe qui peut pas le faire. Donc ça demande un entraînement. Et ça, c'est quelque chose avec lequel, en France, on est un peu complexé.
Ouais.
Parce qu'on a l'impression que quand c'est technique, c'est vulgaire.
Ouais.
On a une tradition de la nonchalance. Oui. Un peu à la Gainsbourg, où en fait la technique est vue comme quelque chose de presque de dégradant, alors qu'en fait nous on défend la technique, on défend le travail, le fait d'avoir des skills.
Mais c'est défendu de manière générale, je crois, dans la comédie musicale. Enfin, les gens qui raillent le genre de la comédie musicale ont l'air de le faire en ne reconnaissant pas qu'il y a quand même même si on s'en moque, même si on n'aime pas, on devrait reconnaître à minima la technique qu'il y a dedans, quoi, la technicité hallucinante que c'est.
Ouais, ouais. Je trouve pas ça anodin du tout, en fait, pardon, que vous ayez choisi ça, effectivement. On vous a évoqué dans l'épisode de Pyjama, le premier épisode, en disant qu'effectivement, vous vous rattachiez un petit peu au genre de la comédie musicale, hormis le fait, d'ailleurs, que vous vous habillez en couleur, que vous dansez en plus de chanter, etc. Mais effectivement, dans la façon de composer, et c'est pour ça que ça m'a fait marrer quand vous m'avez dit que vous aviez choisi ça, parce que je me suis dit, bah, évidemment, catastrophe, ils ont choisi une comédie musicale, en fait.
Ouais, encore, on n'a pas choisi une comédie musicale, enfin, on n'a pas choisi une chanson où il y a énormément d'harmonie, alors que je pense que si ce qui se rapproche le plus de catastrophe, catastrophe le genre musical et la comédie musicale le genre musical, c'est vraiment le goût des harmonies, des polyphonies, de l'entremêlement de voix qu'on entend.
Il y en a non dans le temps
seul.
Des cathédrales.
Non, il chante seul.
Il chante tout seul. Ouais. Il l'assume tout seul sur scène avec sa grosse veine dans le cou qui va péter.
Et son maquillage hallucinant.
Ouais. D'ailleurs, je l'ai vu 30 000 fois ce DVD, mais c'est vrai que je suis obligée de regarder de côté parce que cette veine me regarde dans les yeux à chaque fois. Mais il chante très bien.
Mais c'est vrai que c'est un solo, alors que presque on avait pensé aussi au Roi du Monde. Dans les Rois du Monde, pour le coup, c'est la fête aux harmonies, au chant, plusieurs.
C'est un hymne, quoi.
Mais on était peut-être un peu plus critique sur les paroles. Enfin, moi, alors que là, oui, c'est ça aussi. Alors, hop, autre raison. Je trouve que les paroles et ce que ça raconte quand même, c'est quand même une adaptation de Victor Hugo.
Mais merci.
Oui. C'est quand même assez exigeant ce que ça raconte quand même. Il y a, au début, qu'est-ce qu'il dit en l'an 1482. En fait, c'est aussi pédagogiquement, je trouve qu'on apprend des choses avec cette affaire du temps des cathédrales. Le personnage de Gringoire, c'est un personnage qui a vraiment existé. Et
il a vraiment existé, c'est vrai.
Il a vraiment existé, ouais. Et c'était un poète un peu excentrique. Je connais pas très bien l'œuvre de Gringoire, je vais pas simuler. Mais c'était, je crois que déjà à l'époque, c'était à la fois quelqu'un qui écrivait des poèmes qui pouvaient passer dans le champ religieux et avait des touches, de folie, d'excentricité. Et je trouve que, en fait, on ne le sait pas, bien sûr, on découvre Notre-Dame de Paris, on se dit, ah tiens, Gringoire, c'est marrant, Bruno Pelletier et tout ça. Mais en fait, a posteriori, on comprend qu'on a appris des choses sur le temps des cathédrales des années après, sans le vouloir et par le plaisir. Et je trouve que apprendre des choses, faire apprendre aux gens des choses par le plaisir, par le biais du plaisir, c'est quand même une force.
Bah ouais, c'est comme quand tu récitais tes leçons d'histoire quand t'étais petit ou petite, en les chantant, tu vois, et que c'est comme ça que tu les apprenais.
Bien sûr.
Il a pas fallu que je fasse ce podcast pour réécouter cette chanson, puisque, comme je le disais, j'aimais beaucoup cette comédie musicale de toute manière. Mais c'est vrai que quand tu prêtes plus attention maintenant aux paroles que quand t'étais petit, que tu comprenais pas spécialement toujours ce que ça voulait dire, tu te dis, le contexte, il est bien, il parle de l'imprimerie, il parle effectivement des édifices qui s'élèvent, il parle de la religion, de tout ça, et c'est vrai que tu te dis waouh, c'est bien foutu, effectivement.
Ouais, et puis je trouve que ça rend aussi un lyrisme qu'on a un peu perdu, une forme d'ambition terrible. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire, on a voulu monter vers les étoiles, écrire notre histoire dans le verre ou dans la pierre. Il y a quand même une forme d'ambition démesurée qui aujourd'hui nous fait rire. Bien sûr, on n'ose plus en fait être aussi, on n'ose plus viser les étoiles, vouloir inscrire son histoire dans la pierre. On a l'impression que c'est, je sais pas comment dire, que c'est un autre temps, justement. Ouais, on a perdu cette forme de croyance romantique et belle, à mes yeux, en ce que l'homme peut laisser sur Terre, comment on peut inscrire notre histoire et tout ça. Et je trouve que c'est beau aussi de ressusciter ce sentiment-là, un sentiment de sa propre valeur en tant qu'humanité. En fait, pas en tant qu'individu. Enfin, là, il chante pas en tant qu'individu. Non, pas lui qui veut graver son histoire.
Ouais, carrément.
Et je trouve que, je sais pas, ça me touche aussi pour ça. Parce que c'est un sentiment, qu'on dirait aujourd'hui un peu naïf. Mais qui, en fait, a permis aux hommes de faire quand même des choses, et aux femmes, de faire des choses, incroyables, inimaginables, qu'on n'arrive sans doute plus à réaliser sans machine aujourd'hui.
Ah oui, complètement, complètement. Bah oui, il a fallu plus de 2 siècles, il me semble, déjà pour construire Notre-Dame. Donc mais oui, je suis totalement d'accord. En plus, je trouve que c'est bien foutu parce que donc c'est lui qui ouvre la comédie musicale donc seul, comme on le disait, sur scène. Et pour ceux qui ont lu l'œuvre de Hugo, c'est vrai que en tout cas dans la première partie du livre, Gringoire c'est un des protagonistes principaux, c'est pas lui le narrateur, mais il est quand même omniprésent, c'est lui qu'on suit, etc. La comédie musicale va pas se diriger vers ça, vers une linéarité, genre collée complètement au bouquin, mais ça respecte ça quand même. Je trouve c'est assez fidèle et ça fait du bien un peu.
De même que l'autre comédie musicale adaptée de Victor Hugo, à savoir Les Misérables, qui est quand même la comédie musicale la plus jouée dans le monde. Enfin, je veux dire, nous on est snob, on se moque des comédies musicales mais c'est 65 millions de spectateurs, je crois. Enfin, c'est vraiment la elle a dépassé Cass, elle a dépassé tous les chefs-d'œuvre un peu de Broadway, enfin c'est vraiment la plus jouée, quoi, et c'est peut-être qu'en France, c'est l'endroit où on l'aime le moins. Bon, à se demander. Enfin, je trouve ça intéressant. Toujours ce qui est aimé à l'étranger, ce qui est français, qui est adoré à l'étranger. Et nous, ici, il y a une sorte de snobisme et on veut plus regarder ce qui a été fait ici. Et bref, et Les Misérables, c'est pareil, c'est quand même une adaptation, évidemment pas fidèle, pas fidèle aux mots de Victor Hugo, forcément, et ça serait difficile parce que
ça
dure pas. Voilà. mais c'est quand même vraiment fidèle à l'histoire. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Les Misérables et je les ai lus, du coup, assez jeune. Parce que amoureuse de la comédie musicale et un peu fascinée, pareil, 11 ans, fascinée par le personnage de Cosette auquel je m'identifiais.
Oh, wow.
Et du coup, j'ai lu Les Misérables assez tôt grâce à ça. Donc c'est aussi, il y a vraiment un truc pédagogique. Enfin, il y a vraiment une manière d'entrer d'entrer dans des œuvres plus complexes. Et aujourd'hui, je pense que Les Misérables, je peux en parler bien et j'ai l'impression de les avoir compris de l'intérieur sentimentalement. Et après, d'avoir mis du savoir plus... plus articulé, oui, disons, moins directement émotif ou sentimental, mais du coup j'ai un souvenir hyper intense des moments clés des Misérables parce que c'était des chansons
Ah, je comprends très bien.
Je trouve que ça a une vraie valeur. Enfin, c'est facile de s'en moquer, mais
je suis d'accord. Ouais. Toi, Pierre, t'as grandi aussi avec les comédies musicales ou moins pour le coup?
Oui. Alors moi, bien sûr. Ça a fait partie, je pense, de toute façon, toute notre génération a été marquée au fer rouge par Roméo et Juliette et le temps des, enfin, c'est pas le temps, c'est
Notre-Dame de Paris, pardon. Pas été marqué au fer rouge, mais marqué au fer blanc.
Marqué au fer, orange.
Marqué au marqueur.
Ouais.
Mais bien sûr, les comédies musicales et surtout les, en fait, ce j'ai l'impression Notre-Dame de Paris et Roméo et Juliette, c'est un peu vraiment les deux. Elles ont un côté un peu frère siamois ou un peu comme Florent Pagny et Pascal Obispo. J'ai l'impression qu'elles se répondent. Enfin, on les confond presque.
Oui, c'est vrai.
Et du coup,
on aimerait bien faire une liste de tous ces gens.
Oui, alors ça c'est intéressant.
On veut
je sais pas, il faudrait donner un nom à ce phénomène. C'est des choses qui vont ensemble.
Dans ton esprit, en fait, c'est la même chose.
Comme Florent Pagny et Pascal Obispo, par exemple, des choses qui se confondent et qui se font écho et qui vont par pair, en fait. Et donc,
dans ma tête, Julie Zenati et Isabelle Boulet.
Ouais, exactement. Exactement.
Pas bête. Julie Zenati qui est dans Notre-Dame de Paris, d'ailleurs.
Oui, mais voilà.
Et en tout cas, ouais, c'est un peu ces mastodontes de du spectacle vivant des années 2000.
C'est disponible, en ligne sur YouTube.
Sur YouTube.
Évidemment.
Et moi, récemment, j'ai regardé un peu, en fait, invité à le faire par November Ultra.
Yes.
Qui, un soir, faisait des stories en disant que ça y est, elle s'était relancée dans Roméo et Juliette.
Oui, je me souviens.
Son écran. Et du coup, on a un peu débriefé en même temps le visionnage de Roméo et Juliette. Et bon, il y a quand même des choses sur lesquelles je suis critique. Et c'est surtout des choses de... En fait, les habits, je peux pas. Les habits de Notre-Dame de Paris et de Roméo et Juliette, vraiment, pour moi, il y a un problème, quoi. La manière de se vêtir ne me va pas.
Tu sais quoi, je suis d'accord.
Quelque chose a mal vieilli là-dedans. Et...
Oui, moi, je me rappelle, c'est ma mère qui me le faisait remarquer il n'y a pas assez longtemps, il y a quelques années, mais donc j'étais plus dans ma frénésie non plus de Notre-Dame de Paris, où elle m'a dit qu'en soi, bon, elle, c'est pas une comédie qu'elle apprécie, en soi, mais qu'elle lui reconnaissait des mérites. Mais elle disait que, par contre, c'est vrai que la scénographie et les costumes, sont vraiment cheap par rapport à ce que propose justement la musique, les paroles qui sont vraiment bien, les interprètes, qu'on les aime ou pas dans leur carrière solo, remplissent plutôt bien leur rôle en tout cas, quoi. Mais je suis d'accord.
Il y a un problème esthétique et pour moi aussi vraiment un problème de maniérisme dans les voix. Pas Bruno Pelletier justement, je trouve qu'il est quand même non mais il a une voix bon bien sûr il a quand même une voix, on sent qu'il a une formation classique, donc il y a l'espèce de maniérisme propre aux voix classiques, quoi. Mais il a pas le maniérisme qu'on peut entendre dans d'autres interprètes où vraiment il y a des trémolos à des endroits où ça ne sert rien, en fait ça n'apporte pas quelque chose ni à la voix ni à l'émotion, je trouve.
Il y a aussi des fois où ils parlent au milieu d'une phrase musicale et ça, ils sont en train de chanter, ils font Enfin, je sais pas comment oui, le faire, mais je, vous, voilà, vous, si ça, vous connaissez les comédies musicales,
oui. Vous connaissez. Ouais.
Oui, ça c'est pareil, ça sonne pas juste en fait. C'est ça, du coup, ça me met maintenant quand je les revois, ça me met un peu à distance, quoi, le côté le côté maniéré en fait.
Oui,
que ce
oui.
soit esthétiquement, que ce soit dans certaines intonations en effet de voix parler chanter,
oui, oui.
ou que ce soit dans des trémolos ou des
oui,
je
oui.
sais pas des effets de voix non nécessaires. Mais sinon, tout de même, me disais-je en réécoutant et en revoyant Roméo et Juliette, il y a des moments vraiment incroyables. Par exemple, une chanson qui s'appelle La Haine. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît, November ouais. Ultra, si tu écoutes ça. Mais la Haine, c'est vraiment incroyable. Enfin, il y a vraiment des contre-chants si jouissifs. Et c'est vrai. Et ça, tu l'as pas. Je crois que tu l'as pas dit, mais en France, la jouissance, c'est un truc qu'on se dit souvent. Comme si on avait un problème avec l'idée qu'un morceau fasse avant tout plaisir. On est comme gêné à ressentir du plaisir en écoutant de la musique. J'ai l'impression qu'on intellectualise peut-être plus qu'aux États-Unis notamment où le plaisir est gage de gage de qualité quoi.
C'est intéressant que tu dises ouais, ça va super bien avec le thème du podcast justement. Je suis assez d'accord. Donc tu dirais qu'on aurait tendance à se limiter à de la technique au début quoi.
C'est qu'en fait le plaisir est suspect est vu comme quelque chose de l'ordre du vice en fait, un peu la tradition judéo-chrétienne veut nous persuader que quand on ressent du plaisir, il y a quelque chose de sale ou de suspect, et du coup on va écouter des musiques qui sont désagréables.
Non mais ou qui sont plus je sais pas comment dire, moins intense. Enfin, il y a un peu l'idée la chanson française en général, c'est quand même ça fait plaisir intellectuellement ou ça peut nous émouvoir parce qu'on se souvient de
oui.
choses et c'est dans une nostalgie, mais il y a pas vraiment de ce qu'on entend par plaisir, je crois que c'est quand le corps est en jeu en fait.
D'accord. Quand le corps exulte
et c'est quand le corps exulte ouais.
quand quelque chose français, une bonne ça. Comédie musicale, c'est une comédie musicale où il y a une ouverture qui va saisir les gens tout de suite, hein, le public où en fait ça rayonne, ça il y a quelque chose qui est commun à toutes les comédies musicales qui ont duré dans le temps et qui sont des classiques, c'est des ouvertures comme ça flamboyantes et qui peuvent faire vibrer comme ça des milliers de personnes à l'unisson immédiatement et universellement aussi.
Ouais.
Ouais.
C'est pour ça aussi que les à Hong Kong les manifestants ont repris
l'année dernière non
les Misérables
il y avait beaucoup de manifestations à Hong Kong c'était l'année dernière
et en fait ils ont repris à leur compte l'ouverture justement de le final
qui s'appelle À la volonté du peuple, ils l'ont repris en anglais parce qu'évidemment la comédie musicale aujourd'hui est plus connue en anglais qu'en français alors qu'elle vient de France, et c'est vrai que c'était hyper émouvant parce que il y a comme ça je sais pas ils étaient 400 ou 500 et ils chantent tous ce qui vient de Victor Hugo
ouais.
et ils le reprennent vraiment comme un hymne politique de manifestation hyper engagé avec sans aucun second degré évidemment en fait
parce que
là ils se battent pour des droits pour leur vie et ouais il y a quelque chose de d'évidemment universel quand on voit ça et d'assez bouleversant quoi.
Ouais
on revient un peu à l'essence en fait, c'est aussi je pense que ça va avec un peu le plaisir mais revenir à l'essence de ce que nous fait la musique et de ce qu'est la musique et non pas aux commentaires sur la musique ou aux discours sur la musique ou à voilà de l'esprit critique.
Mais t'as raison, c'est ça en fait. Ouais, c'est des couches sur des couches qui ont tendance à camoufler une espèce d'essence de la musique qui peut manquer un petit peu. D'ailleurs, qui justement, je pense que c'est aussi ça le pouvoir des concerts. Ça m'est déjà arrivé donc pas cette année bien sûr, mais ça m'est arrivé de me retrouver dans des concerts d'artistes que j'apprécie pas spécialement, enfin bon, voilà, je me retrouve là parce que bon, peu importe quoi. Mais je vais rarement haïr viscéralement un concert, même si j'aime pas spécialement la musique. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, bon bah, c'est un peu cucu dit comme ça, mais ça réunit malgré tout. Et c'est vrai que pendant un concert, c'est pas là que tu vas t'attacher aux paroles, à la technique ou des choses comme ça. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus brut qui te permet quand même d'apprécier au moins un minimum une performance, je trouve.
Ouais, parce que ça passe par le corps et on se rend compte aussi qu'on est forcément vulnérable quand on fait de la musique. Je pense on peut pas être. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a certains producteurs qui sont tout le temps en studio qui ont du mal à se montrer sur scène, qui doivent se cacher parce que se montrer sur scène, c'est forcément être vulnérable, être dans une position de, enfin, où le corps est comme, je sais pas comment dire, comme disponible, attaquable. Et c'est ça aussi, je pense, qui rend à peu près n'importe quel concert, même si on peut reprocher des choses à des, voilà, il y a des concerts qu'on aime pas, mais qui le rend quand même, touchant, qui fait qu'on peut, en effet, on n'a pas la même dureté que devant son ordinateur quand on écoute une production. Mmh. C'est, on voit la vulnérabilité du corps de l'autre et,
oui.
Bah, c'est comme Lévinas, quoi. Quand on voit le visage de l'autre, on peut pas on le haït pas comme on le haït quand son visage est masqué, n'est-ce pas?
Alors, vous m'aviez dit que vous aviez effectivement, hésité entre Roméo et Juliette et Notre-Dame de Paris. Donc, hormis les vêtements et la scénographie, etc. Je demande pas lequel des deux vous préférez entre vos deux enfants, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez tranché finalement pour Notre-Dame de Paris, pour cette chanson-là, plutôt que pour Les Rois du Monde?
On a tranché pour la chanson, pas pour la comédie.
Oui, pour la chanson. Hein.
Ouais. On trouvait que... En fait, moi, je pense quand même... globalement que les Roméo et Notre-Dame de Paris est à moins de clichés que Roméo et Juliette, et c'est peut-être lié à son thème aussi. Enfin, il y a Roméo et Juliette, c'est une comédie musicale sur l'amour.
Oui.
Et le thème de l'amour, c'est un des trucs, une des choses les plus difficiles à traiter, je pense, artistiquement. C'est très difficile d'éviter les clichés quand on parle d'amour. Et je trouve du coup par rapport à ça que Notre-Dame de Paris est plus originale, plus singulière, plus intéressante.
Ouais.
Mais c'est vrai que la musique de Roméo et Juliette est quand même un chef-d'œuvre.
Ouais, et puis l'histoire de Roméo et Juliette, quoi qu'on en dise, Shakespeare. Et enfin, je veux dire, c'est Shakespeare à la base, mais même dans l'adaptation, on sent l'histoire est là. Enfin, et l'histoire est quand même bouleversante. Enfin. Difficile, je trouve, en étant si on y va seul, si on y va des parties des 100 haters qu'on a dans la tête en permanence parce qu'on vit avec des réseaux et qu'on s'autocritique et qu'on autocritique chacune de nos émotions en permanence, mais si on parvient à écouter ou à aller voir Roméo et Juliette seul, difficile de ne pas être ému quand même, je trouve.
Oui. Après, c'est vrai que je suis d'accord. En même temps, c'est vrai que les deux comédies musicales ont quand même cette différence. Elles traitent un petit peu du même sujet, mais vraiment pas avec la même approche. T'as Notre-Dame de Paris qui va parler. Bon, il semble y avoir du véritable amour innocent du côté de Quasimodo et Garou, n'est-ce pas, envers Esmeralda, jouée par Hélène Ségara sur scène, en tout cas. Mais après, ça aborde aussi toute la notion d'interdit, de sexe, de viol, etc. Et t'as Roméo et Juliette qui, eux, sont deux adolescents qui sont éperdument tombés amoureux l'un de l'autre. Je sais pas quel âge ils ont, mais ils sont vraiment très jeunes. Et c'est vrai qu'en 3 jours, ils ont réussi à tomber amoureux, à se marier. Et à mourir.
On n'y croit pas trop.
C'est très intense, quoi.
C'est beau quand même. Mais non, on n'y croit pas. Et puis, mais c'est vrai que moi, je suis un peu à distance aussi par l'idée de jeunes premiers. Tous les deux, c'est un peu les plus beaux de leur famille. Mmh. Je sais pas si c'est ce qui est le plus intéressant à raconter.
Le personnage de Quasimodo est plus intéressant que le personnage de Roméo. Enfin,
oui,
on s'y attache plus. Et il y a aussi ce Notre-Dame de Paris qui, ça nous plonge un peu dans un univers de Paris médiéval qui, moi, me fait rêver, enfin, me touche beaucoup. La Cour des Miracles, Esmeralda, enfin, je trouve que c'est un univers à explorer qui est plus intéressant. Quoi, je trouve.
Plus fourni, peut-être.
Ouais. Après, narrativement, voilà,
je veux pas non
encore
plus
une fois,
cracher dans la soupe.
Le tragique, enfin, l'idée de la lettre qui n'arrive pas à temps, tous les événements
horrible.
Tragiques là qui s'enchaînent. C'est quand même, c'est super bien écrit quand même. Tout simplement, je veux dire, la pièce de Shakespeare à la base, quoi, elle est quand même.
Mais, alors, à savoir que la pièce de Shakespeare est elle-même une réécriture en fait d'un canevas qui existait bien avant Shakespeare en fait.
Intéressant, je le savais pas.
Le saviez-vous Non, mais c'est vrai, c'est un mythe quasiment qui existe depuis la nuit des temps. Enfin, ce schéma de la personne. De la lettre qui n'arrive pas, etc.
Et mythe d'ailleurs, c'est intéressant, je trouve, qui est aussi en fait West Side Story. Enfin, c'est la même chose en fait. West Side Story, c'est Roméo et Juliette développé autrement.
En tout cas, il y a un ensemble de mythes qui irrigue un peu la narration, quelle qu'elle soit. En fait, j'ai l'impression qu'on retombe toujours sur les mêmes les mêmes racines, en fait, narratives, les mêmes récits primitifs qui...
Je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y a très peu de... Il y a des schémas, mais en fait, ils sont vraiment très peu nombreux. C'est juste qu'ils sont très déclinés, quoi, énormément. Mais c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de choses qui se rassemblent.
Des histoires qu'on adore tous et qu'on croit uniques, et en fait, on se rend compte qu'elles ont toutes la même ossature.
Oui, oui.
En fait, il n'y a que des réécritures, en fait. Ouais. Tout est...
Ça décomplexe aussi. Ça donne envie, du coup, de se mettre soit à une réécriture...
Bah, tu le sens plus légitime, effectivement, à le faire, quoi, je pense. Mais t'as raison. C'est vrai que j'ai l'impression que... Enfin... J'ai l'impression que c'est un peu triste de dire ça et que à la fois pas du tout, mais c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant tout est un peu réécriture, quoi, comme si tout avait déjà été en fait inventé, c'est-à-dire
c'est depuis longtemps, de c'est ça qui
depuis très longtemps, voilà. Bah,
depuis Homer en fait, qui est le premier récit, c'est peut-être Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh. En tout cas, il y a eu des patterns qui se reproduisent depuis. Que l'homme est homme.
Crois qu'on sent ça justement dans les comédies musicales, qui en effet réinterprètent souvent les mêmes histoires d'amour impossible, etc. On sent aussi, et c'est pour ça que c'est universel, enfin c'est pas que universel, on sent aussi que c'est comme intemporel, que ça touche vraiment à une sorte d'essence de qu'est-ce qui touche l'âme humaine, quoi.
Mais d'ailleurs, alors, bon, petite réflexion à côté, mais donc je réfléchissais aux comédies musicales que j'ai pu voir, que j'ai pu aimer, petites ou pas, hein. Alors il y en a pas des milliers, je pense que j'ai pas une culture très très élargie de ce côté-là, mais moi je me rends compte que les comédies musicales que j'aime, donc souvent c'est des basiques, hein, ça va être Les Demoiselles de Rochefort, ça va être Les Parapluies de Cherbourg, ça va être celle-ci, ça peut être Roméo et Juliette, bon, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais Starmania, etc. Je trouve que c'est très souvent tragique, en fait. C'est triste, en fait, très souvent, les comédies musicales.
C'est le malentendu de la comédie musicale, ouais. Je pense que, parce que quand on se représente une comédie musicale, on pense paillettes, froufrou, ouais. Et en général, oui, ça raconte des choses tragiques et peut-être plus d'ailleurs que d'autres spectacles qui finalement vont moins verser dans le tragique et auront moins besoin de contrebalancer avec une joie apparente. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Quand on raconte des choses vraiment insoutenables, par pudeur et par vitalité, parce qu'on reste vivant, on est obligé de le faire avec quand même de la joie, de l'humour. Et je pense qu'en effet, il y a quelque chose de ça dans la comédie musicale. Ça cumule souvent la poésie et le tragique, la malice et le tragique.
Ben ouais, je me faisais la réflexion, je suis rarement, si ce n'est jamais en fait sortie d'une comédie musicale, bon souvent plutôt un film, hein, je crois que j'ai vu qu'une comédie musicale sur scène dans ma vie, et je ne suis sortie de comédie musicale qu'avec un petit arrière-goût de amer, quoi, un peu triste. Bon, t'as même Les Demoiselles de Rochefort, tu vois. Je sais pas si c'est un classique pour vous, mais quelque chose de très très coloré, très festif, etc. Parce que il y a ces forains qui débarquent dans cette ville qui est assez quelconque de base, et à la fin tout se finit plutôt bien pour tout le monde, mais les forains et les protagonistes principaux s'en vont de Rochefort, et du coup, même si on ne la voit pas, on s'imagine que Rochefort va redevenir ce que c'était, c'est-à-dire une ville complètement quelconque, dans laquelle il n'y a pas de musique, dans laquelle il n'y a pas de couleur. Et ouais, je me faisais cette réflexion-là, que, en fait, le récit n'est pas forcément triste, oui.
Le Parapluie de Cherbourg, c'est encore plus triste.
Non, mais c'est affreux, ça. Moi, je le reverrai plus jamais, par contre. J'ai vu une fois,
surtout la dernière scène, quand il revient elle revient dans le garage, enfin.
Lui, il se passe quoi, tu peux la lire?
Bah, en fait, c'est que, il y a une ellipse, je crois, une ellipse temporelle, et en fait, c'est deux amoureux, et puis il doit partir à la guerre d'Algérie. Et après, en fait, le destin les sépare, en fait, parce qu'ils sont pas aussi de la même classe sociale.
Toujours la même histoire.
Et le destin les sépare, mais ils se retrouvent quelques années plus tard, et lui, il a refait sa vie. Ouais. Et donc, il y a aussi ce spectre aussi de la vie rêvée de la vie qui aurait pu être, un peu comme dans ce film qui s'appelle Les Vestiges du Jour, qui est un très beau film que je vous conseille.
Notez.
Et qui évoque ça aussi, cette espèce de réalité alternative, ce monde parallèle dans lequel une histoire d'amour aurait été possible, ou les vies non vécues, en fait.
Ouais,
je pense aussi à Cabaret, dans le genre comédie musicale tragique, où il y a une sorte de vie, fantasmé qui ne pourra pas être vécu à cause du contexte. Cabaret qui se passe donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et la dernière image, on voit tous les nazis. Enfin, en fait, on est dans ce cabaret qui est assez joyeux au mm-hmm. début, qui est assez festif. Et soudain, en fait, on voit le public, et le public a été remplacé par des nazis. Et c'est pareil, c'est une histoire d'amour qui pourra pas être vécue, ou pas jusqu'au bout. Ou, voilà,
oui, oui. Vraiment. Mais alors, je trouve que c'est ça aussi qui fait justement la force de Notre-Dame de Paris, dont est issue donc votre daube. C'est que il y a effectivement cet aspect-là dans la comédie musicale, mais c'est pas la ligne directrice non plus. C'est pas le propos toujours du bouquin ni de la comédie musicale. C'est pas l'histoire de Quasimodo et Esmeralda qui pourront jamais être ensemble.
Non. Bon, après,
voilà. Bonne journée.
Bye. Non, mais il y a plein de comédies musicales qui parlent pas d'amour. Je pense aux comédies musicales, pour le coup, qui sont vraiment mes préférées. Celle de Stephen Sondheim, qui est un Américain.
D'accord.
Et celle de Bob Fosse, qui est un peu plus connu, Américain aussi, qui sont pas des histoires d'amour. Vraiment, je pense à All That Jazz. Ça raconte un metteur en scène qui est très malade, en fait, qui va mourir, mais qui ne veut pas se l'avouer à lui-même, donc qui continue à travailler, à vivre, à danser et à chorégraphier. Et les histoires d'amour, il y a des histoires d'amour dedans, qui sont d'ailleurs passablement non compatibles avec l'air MeToo. Je l'ai dit vraiment avec une périphrase très longue. mais les histoires d'amour dedans sont secondaires. Enfin, le cœur de l'affaire, c'est vraiment la mort.
Ouais, ouais.
C'est pas l'amour. Et dans Stephen Sondheim, Sunday in the Park with George, donc c'est sur un peintre, George.
George Seurat, je crois.
George Seurat.
Il me semble.
Seurat. Oui, Seurat. S-E-U-R-A-T.
Oui.
Qu'est Seurat?
À checker.
Ouais. À vérifier, mais bon, dans notre mémoire, Georges Seurat, qui a peint un après-midi où c'est un pique-nique, enfin des gens qui sont dans un parc et qui se promènent. Et...
C'est un tableau, en fait. C'est l'histoire. Tableau. En fait, la comédie musicale, c'est l'histoire d'un tableau.
D'accord.
Et c'est hyper beau parce que.
Bel exercice.
Donc nous, on connaît juste le tableau et en fait, l'histoire, c'est on est d'abord avec ce Georges Seurat et on le voit vivre, on le voit peindre, on le voit. Potentiellement ennuyer ses proches parce qu'il n'est pas disponible pour eux, parce qu'il n'a pas envie d'aller se promener les dimanches après-midi, sa femme qui semble être un peu délaissée, enfin voilà, on assiste un peu à des scènes comme ça, un peu quotidiennes, puis après il y a une sorte d'ellipse et on arrive dans une galerie d'art contemporain.
Dans les années 80.
Dans les années 80, et donc ça change du tout au tout, et en fait on croit deviner ce qu'est devenu l'héritage de Georges Seurat, mais on sait pas exactement. Et bref, à la fin de la comédie musicale, après moult péripéties, on se rend compte qu'en fait, au début, ce que lui peignait, alors que tout le monde était en train de lui demander « Tiens, pourquoi tu viens pas te promener avec nous ? Et pourquoi tu sembles nous ignorer ?» c'est qu'il peignait précisément la promenade à laquelle il participe là.
D'accord.
Il pouvait pas y participer puisqu'il la peignait.
Mindfuck un peu. C'est le premier Inception, finalement.
C'est hyper beau parce que...
C'est sublime.
En fait, les personnages du tableau prennent vie et le tableau est reconstitué sur scène.
Ah, dis
donc.
Les
personnages chantent, enfin les parce qu'en fait c'est une peinture d'un parc avec des gens au début du siècle qui se promènent et les personnages se mettent à chanter et bougent. Ah, c'est aussi très beau esthétiquement pour le coup par rapport à Notre-Dame de Paris.
Rien à voir.
Là, on est sur un chef-d'œuvre esthétique aussi.
Oui, oui. Ouais. Là, il s'agit d'un tableau.
Oui.
Ce qui est très beau, c'est qu'on s'attend pas à ce que le tableau se matérialise quand il a. En fait, on voit des gens, voilà, déambuler, et soudain, en fait, ils s'arrêtent, et on se rend compte qu'on a le tableau. C'est un tableau connu.
Ah, ouais,
et
ouais.
Qu'on a le tableau sous les yeux, et qu'on l'avait pas vu venir. Enfin, moi, je sais que c'est ça qui m'a bouleversé, l'idée qu'en fait, on accède presque à la vision du peintre, où lui a vu ce tableau.
Ouais, enfin,
c'est dit, tiens, là, il y a un tableau, quoi.
Ouais,
et nous, ben, on le voit pas, on vit, en fait.
Ouais,
tiens, c'est des gens qui se promènent dans un parc.
Il y a une dimension visuelle qui n'a même pas été, je pense, réfléchie par rapport à Notre-Dame de Paris. Pour le coup, lui, c'est au moins la moitié du taf, en fait, de la comédie musicale, du coup.
Ouais, c'est vrai que c'est là-dessus. C'est... Mais c'est réussi, hein, c'est vraiment réussi. On l'a vu au Châtelet, je sais pas si ça passe encore, mais.
À une époque.
Toutes les œuvres de Stephen Sondheim sont.
Ouais. En fait, bon,
sublime.
C'est vrai qu'il faut quand même, je trouve que ça serait intéressant qu'on aborde cette question. Enfin, quand on compare les comédies musicales de Stephen Sondheim avec les comédies musicales françaises, pour moi, je place quand même les comédies musicales américaines au-dessus. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais pour moi, il y a quelque chose qui quand même. On en parlait, enfin Sunday in the Park with George ou West Side Story, ou il y a quand même, je veux dire, une culture, un savoir-faire de cet art qui appartient quand même aux États-Unis et à l'histoire de la musique américaine.
Au monde anglo-saxon, je dirais, de manière plus générale, parce qu'à Londres, quand même, c'est aussi un niveau assez exceptionnel, ouais.
Vous croyez que si les Américains, les anglo-saxons, s'étaient emparés de Notre-Dame de Paris, ils auraient pu en faire quelque chose de mieux?
Oui. Ça dépend quels Américains. Mais Stephen Sondheim avec...
Assurément.
En fait, lui, c'est vraiment le maître. C'est donc, oui, sans doute. Après, je trouve quand même que ce qu'on a dit tout à l'heure, Les Misérables, ça
vaut ce pesant de cacahuètes.
Non, mais voilà, ça a fait plus. Non, mais ça a dépassé Katz en termes de.
Donc, je crois que c'est l'histoire.
Je pense qu'on est capable
Je suis pas sûre que ce soit visuellement, où j'ai l'impression que vraiment l'histoire des Misérables, elle est bouleversante, en fait. Elle est universelle. Elle est, puis même l'histoire, tu vois, de la Révolution, du coup française. Enfin, ce que ça raconte aussi de la quête de liberté et du coup des sacrifices qui vont avec, un idéal, enfin ça défend vraiment les Misérables. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait c'est des gens qui sont prêts à mourir pour leurs idéaux. Et je pense qu'en fait c'est ça qui bouleverse, c'est vraiment le sens, et bien sûr ça a été mis en musique, ça a été accompagné, enfin la musique veut dire ça, enfin retransmet bien ça, mais je pense pas que ça soit pour des qualités après, j'en sais rien, là j'ai l'air très prétentieuse, mais j'ai pas l'impression que ce soit pour des qualités visuelles, tu vois, ou des qualités ou par exemple la danse est pas ultra au centre dans Les Misérables.
Non,
c'est pas, tu vois, on va pas retenir les chorégraphies des Misérables avant tout, quoi.
Oui, pas pareil pour Notre-Dame de Paris,
non,
etc.
Non,
mais ouais.
Tandis que West Side Story, c'est vraiment l'image, le modèle, la modernité hallucinante, tu vois, le générique d'ouverture qui est ultra moderne, hyper coloré, c'est pop en fait, c'est vraiment pop avant la lettre, et évidemment les chorégraphies, même la rythmique qui passe dans les corps, enfin le fait qu'ils sont tout le temps en train de claquer des doigts et que c'est vraiment tout de suite harmonieux, l'inventivité musicale et
en fait,
organique en fait.
En fait, on a tendance à oublier que en fait à un moment la comédie musicale ne devait pas tous ses codes encore, et en fait c'était de l'avant-garde. Enfin, quand on s'est mis à faire des claquettes ou tous ces codes de la comédie musicale qui sont aujourd'hui devenus des clichés, et au moment où ils ont été inventés, bah c'était de l'avant-garde. C'était quasiment, je pense à Gene Kelly aussi. C'était un nouveau style complètement, et ce qui frappe dans West Side Story, c'est la modernité aussi. Enfin là, c'est frais et c'est pop. Et
ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Je trouve même
toujours,
à revoir, je veux dire aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas perdu.
Ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli.
Mais alors.
Alors que Roméo et Juliette.
Ça a vieilli.
Bah tu vois, alors exactement, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que le côté pop vivant qui ne vieillit pas, tu le retrouves, enfin vous le retrouvez dans Le Temps des Cathédrales?
Non.
Tu vois, elle arrive
non, moi,
elle perdure pour vous cette chanson malgré ça, alors qu'effectivement elle a pas l'air de
tout
réunir ces trucs qui vous plaisent tant, quoi.
Non, mais en fait ça aborde la question de enfin du concept même de l'émission. Enfin, qu'est-ce qu'une daube en fait, ou
qu'est-ce qu'une daube?
Enfin,
vous avez 4 heures.
Pourquoi est-ce qu'on peut aimer une daube malgré tout, et qu'on peut l'aimer quand même, et que cet amour est peut-être d'autant plus fort et d'autant plus sincère.
Parce qu'inexplicable un peu, quoi.
Qu'on l'aime avec ses défauts, en fait, et on l'aime malgré tout, on l'aime même si on est un peu divisé en nous-mêmes, on en voit aussi les limites, mais on y adhère quand même, mais il y a une partie de nous, on adhère pas complètement, comme on pourrait adhérer à West Side Story. Enfin, après, moi, je parle pour moi.
Non, mais je suis d'accord avec toi. Le Temps des Cathédrales, en fait, c'est vrai que les freins esthétiques qu'on évoquait sont des freins. C'est-à-dire que même moi, je peux pas l'écouter en boucle, parce qu'il y a quelque chose dans j'adore Bruno Pelletier, enfin je veux dire il a beaucoup de talent, mais il y a quand même quelque chose dans cette voix qui est que j'admire et qui va me toucher parce qu'elle me rappelle des choses adolescentes, mais qui me, dans son usage de la voix, il y a quelque chose qui me touche pas tout à fait au premier degré parce qu'elle est trop forte, trop
trop
classique aussi, trop comme patrimoniale, je sais pas comment dire, elle appartient non, trop, il y a quelque chose d'institutionnel dans sa voix, quelque chose qui est pas tout à fait singulier, enfin moi c'est comme ça que je l'entends, et donc je vais l'aimer, mais je vais l'aimer comme je l'ai aimé, je pense que je l'ai aimé vraiment purement, vraiment ouais, avec ouais. Un amour, une dévotion absolue quand j'étais adolescente. Aujourd'hui je l'aime plus avec la même dévotion, mais je l'aime quand même. Je l'aime malgré tout.
Ouais, c'est la notion. Ça, je crois que j'en ai parlé avec à peu près tous mes artistes, et c'est bien parce que c'est vrai que ça solidifie toujours plus cette idée-là. On en a parlé avec Pomme, on en a parlé avec Ian Caulfield, on en a parlé avec Pyjama. Il y a toujours cette notation. Bah, ceci dit, Pyjama, c'était pas tant le cas que ça, mais il y a toujours un petit peu cette notion de la nostalgie qui rentre quand même vachement en jeu et qui fait que même si objectivement tu sens que cette musique ne te toucherait pas autant si tu la découvrais à ce jour, la nostalgie, elle est là pour finalement faire en sorte que la chanson ne pâtisse pas tant en fait de l'amélioration de tes goûts, enfin l'amélioration je sais pas, mais en tout cas la finesse de tes goûts au fil des années, etc., qui fait que bon bah tu sais que objectivement c'est peut-être pas la meilleure chanson du monde, mais tu l'as tellement aimée que c'est resté quoi.
Est-ce que moi je personnellement je crois pas au bon goût ou au mauvais goût, enfin je trouve que c'est une distinction qui n'est pas très pertinente.
Ouais,
parce que je trouve que pour moi ça peut être juste en fait le témoignage d'un mépris de classe ou
ouais, ça l'est très souvent. Ouais.
Je pense que c'est, malgré tout, même si on peut en finir avec cette idée de bon goût ou de mauvais goût, mais pour autant ça veut pas dire que je nivelle tout et que je mets West Side Story sur le même plan que Notre-Dame de Paris.
Enfin, mais c'est la différence entre bon goût, mauvais goût et bonne technique ou inventivité et mauvaise technique. Enfin, en fait, l'idée que notre goût, ça serait nous, en fait, c'est ça qui, je pense, qui nous gêne dans l'idée de bon goût et de mauvais goût, c'est l'idée que soit, donc son goût, ce qu'il y a de plus intime en soi, ce qu'il y a de plus personnel, il serait bon ou mauvais, donc on serait presque bien ou mal né. Enfin, il y a quelque chose, je pense, qui nous
c'est
attaque.
Intéressant.
Et, enfin, moi, je sais que je me sens vraiment attaquée, et ça passe un peu parce que maintenant j'arrive plus à m'assumer, mais quand je suis arrivée à Paris et que je me suis rendu compte que plein de choses que j'écoutais très sincèrement étaient qualifiées de mauvais goût, j'avais vraiment l'impression qu'on m'attaquait moi, qu'on attaquait mon enfance et qu'on n'attaquait pas, en fait, le morceau en soi. Parce qu'on disait mauvais goût. Je pense que l'expression mauvais goût, elle
est violente.
On disait pas, oui, techniquement, c'est pas intéressant,
oui.
Je sais pas, c'est moins riche harmoniquement. On disait pas ça, on disait c'est de mauvais goût.
Bah ouais.
Oui, je trouve que c'est très
d'accord.
Violent.
Je suis d'accord. Ouais, oui, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je pense que c'est, c'est cette formulation-là qui fait que justement, ça n'est que maintenant quand on atteint un certain âge, et peut-être qu'on est dans une époque plus propice aussi, où enfin on peut dire, sans qu'on nous montre forcément du doigt en riant, qu'on aime bien le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris. Mais c'est vrai que il y a 10 ans, j'aurais dit ça au collège. Enfin, il y a 10 ans, je suis gentille avec moi-même, il y a 15 ans, on m'aurait plutôt lancé la pierre, oui, ça c'est clair.
Mais je trouve qu'il y a une facilité pour qui a le bon goût, détient le bon goût, pour les personnes qui se savent détenir le bon goût, il y a une facilité à ne pas faire l'effort d'articuler une critique d'un morceau, une critique qui peut être en effet technique, ou une critique de sens, ou une critique, il y a plein de manières de critiquer un morceau, mais à ne pas l'articuler et à juste se satisfaire de les qualifier de mauvais goût. Je trouve que c'est quand même aussi une paresse intellectuelle qui confine au mépris, quoi.
Super intéressant. Ouais.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Catastrophe, et à bientôt peut-être.
À bientôt.
À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.